rencontre avec nos évêques.
Et nous sommes heureux que vous nous accompagniez, Monseigneur Brouvet, durant tout ce mois de décembre. Merci d'être là. Bonjour.
Bonjour, Mathias.
Et vous venez de publier des catéchèses sur la politique. Alors, nous avons décidé, d'un commun accord, il n'y a pas de surprise, quelques émissions quand même sur ce sujet. La dernière fois, vous nous expliquiez que l'Église avait toute légitimité à parler de politique et que vous aviez fait ce choix de parler de politique après les grands événements électoraux que nous avons vécus, que tout baptisé a vocation à s'engager et que la politique, c'est plus large que la politique politicienne. Nous terminions la dernière émission en parlant de la pensée sociale de l'Église. On l'appelle parfois doctrine sociale de l'Église. D'ailleurs, ce mot peut-être peut donner du pompeux.
Oui, on peut dire aussi enseignement social.
Oui.
Moi, j'aime bien dire enseignement social de l'Église. Oui.
Alors, je m'appuie sur une de vos catéchèses où vous citez un discours de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, qui, le 20 janvier 1961, disait « Chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Alors on se dit, mais Monseigneur Brouvet cite John Fitzgerald Kennedy. Est-ce à dire que ça fait partie de la pensée sociale de l'Église, ce qu'on vient d'entendre?
En tout cas, c'est une bonne formule. Ça n'en fait pas partie, mais c'est une bonne formule parce qu'il renverse. Hein, on peut très vite avoir l'impression que, au fond, l'État est une sorte de superstructure qui va nous procurer des droits, des subventions, des prestations sociales, etc. On a droit à, il faut toujours réclamer. Et on est un peu, on peut être très vite, vous voyez, dans la posture de celui qui va demander des choses pour lui. Et je crois que le président Kennedy, il avait vu cela, il s'est dit, mais renversons la vapeur. Et je crois qu'il faut la renverser avec lui en se disant, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons, comment nous pouvons nous engager pour le service de notre société, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi. Et donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui se diront, mais moi, je suis pas élu, je peux rien faire. Je crois qu'on peut tous faire quelque chose. Tous faire quelque chose parce que, par exemple, on peut évidemment s'engager dans une équipe municipale. Moi, je pousse beaucoup tous ceux qui hésitent, qui disent « Ah, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ?» Je dis « Ben oui, on a besoin de gens sur le terrain pour s'occuper du bien commun, de la commune, de la voirie, de tout ce qui fait la vie de la commune, du village, de la ville, du quartier. » Bon, moi, je trouve qu'on peut s'engager, mais on participe aussi à la construction de la société, en élevant une famille, en élevant ses enfants, en se mariant, par exemple. Le mariage, c'est un acte à la fois privé parce qu'on aime quelqu'un, mais c'est aussi un acte social. Je vous explique pourquoi. Quand dans un village ou une petite commune, il n'y a plus d'enfants parce que il n'y a personne qui s'est marié récemment, donc on va fermer la crèche, on va fermer l'école, on va fermer le magasin aussi. Ça veut dire qu'au fond, le mariage, fonder une famille, ça intéresse aussi très très concrètement ceux qui habitent tout autour. Donc on peut se dire, moi j'aime un tel ou une telle, c'est une affaire purement privée, je ne vois pas pourquoi j'irais institutionnaliser mon mariage. Mais en fait, on se rend compte, si on réfléchit un petit peu, par exemple un maire d'une commune, il peut être très très content qu'il y ait une jeune famille qui s'installe là, qui consomme là, qui paye ses impôts là. Et voilà comment, tout simplement, un mariage, un amour privé qui porte 2, 3, 4 enfants, tout d'un coup, ça intéresse quand même la vie du quartier. Mmh. Et donc, dimension sociale de notre existence. Je crois que ça, c'est très important.
Vous avez prononcé tout à l'heure cette expression « bien commun ». On est quand même dans une société où chacun défend un peu ses intérêts. On sent qu'il y a un choc là qui peut se passer entre ce que vous appelez le bien commun et puis l'intérêt particulier, mon intérêt à moi. Comment vous voyez cette tendance, choc même?
Ben oui, je crois que ça c'est une question qui est cruciale, qui est fondamentale tout simplement. D'abord parce que alors j'explique dans mes catéchèses que nous avons une vocation à vivre en société. L'individu a une vocation à vivre en société. On n'est pas fait pour vivre seul. D'ailleurs, c'est un terme qui apparaît dès le début dans la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'est pas fait pour vivre isolé, pour vivre dans la solitude, pour vivre dans notre quant à soi. On est fait pour vivre les uns avec les autres, et c'est dans l'échange qu'en fait on s'enrichit. On voit bien hein, que les rapports humains, en fait, c'est un enrichissement incroyable. Et donc la vie en société, ce n'est pas un obstacle à ma liberté. La vie en société n'est pas un obstacle à la manière dont j'ai envie de construire ma vie, mais au contraire, je construis ma vie avec les autres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la question du bien commun. Moi, ce qui m'intéresse dans la question du bien commun, c'est la recherche du bien. C'est-à-dire déjà, qu'est-ce qui est bien pour notre communauté, par exemple pour notre village, pour notre commune, ou pour notre pays, ou pour notre département, ou bien pour notre famille? Qu'est-ce qui est bien pour le groupe dans son entier, et qui est bien pour chaque personne aussi? Et donc, c'est une recherche. Le bien commun, c'est d'abord une recherche, c'est d'abord une réflexion. On se pose et on se dit, qu'est-ce qui est bien pour le groupe dans son entier et pour chacun des individus. Il ne faudrait pas que la recherche du bien commun soit à chaque fois aux dépens des individus. Hein. L'expérience collectiviste au XXe siècle, c'était ça. C'était qu'au fond, on peut sacrifier les individus du moment que ça profite à la société. Bon. Le problème de l'intérêt général, vous en parliez, c'est que l'intérêt général, c'est un peu la négociation entre des intérêts particuliers. Et alors, comment passer de simplement la recherche de mon petit intérêt qui va se combiner au vôtre, et puis on va faire une sorte de salade où chacun va essayer d'y mettre un petit peu du sien pour qu'on n'y perde pas trop. Le bien commun, c'est non. Qu'est-ce qui va être bien? Qu'est-ce qui va nous faire grandir? Qu'est-ce qui va faire que les personnes et les groupes vont grandir dans plus de justice, dans plus de droits, dans plus de paix, dans plus de démocratie, par exemple. Qu'est-ce qui va faire qu'ensemble, on va grandir? Et donc, je crois que ce qui m'intéresse, moi, en particulier, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on se met autour d'une table quand on est dans une société particulière pour se dire qu'est-ce qui est bien pour nous tous et qu'est-ce qui est bien pour chacun. La recherche du bien commun, c'est un vrai travail qui dépasse largement la question de l'intérêt général, parce que la question de l'intérêt général, si vous voulez, ça va être tout de suite une majorité contre une minorité. Or, on ne peut pas bâtir une société simplement comme ça, en se disant qu'est-ce qui va profiter au plus grand nombre. Parce que là, on est dans la loi du plus fort. Et donc, voilà pourquoi il va falloir qu'on essaye de mettre ensemble la question de du bien de tous, du bien du groupe, et puis du bien de chaque personne. Je donnais un petit exemple tout simple que tout le monde peut comprendre. C'est que dans une vie, dans une vie de famille, on prend des repas en commun. Voilà. Et les repas en commun, ça veut dire que c'est à la même heure. Évidemment que chacun vous pourrait avoir des rendez-vous et ne pas être au repas, et l'un dîner à 18h30 tandis que l'autre vient à 20h. Mais l'intérêt du groupe qu'est la famille, c'est en fait qu'on prenne les repas ensemble, pour se parler, pour se prendre des nouvelles, pour voir comment l'un et l'autre va, etc. C'est-à-dire qu'il y a un bien du groupe, il y a ce qui va faire grandir le groupe, même si jamais chacun des individus doit faire un petit effort pour arriver une demi-heure en avance ou une demi-heure en retard, chacun, au fond, va s'y retrouver. Chacun va se retrouver dans cette vie de famille qui grandit, et la famille va en être augmentée.
Une de vos catéchèses, Monseigneur Brouvet, est intitulée Un regard sur l'homme dans sa fragilité. Fait irruption là dans notre discussion la question de la solidarité. Est-ce que vous diriez que cette démarche de solidarité, cette solidarité, c'est comme une sorte de ciment fondamental et que c'est au nom de cette solidarité que la société doit s'occuper des personnes fragiles. Voilà, ça fait partie de l'intérêt de la société.
Oui, je crois qu'une société comme une cordée en montagne, on est dans les Hautes-Pyrénées, donc ça tout le monde le sait, comme une cordée en montagne, il faut qu'on avance au rythme du plus faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire le plus faible, il ne peut pas suivre, il n'a qu'à rester sur le bord du chemin, et nous, on continue la route comme s'il n'existait pas. Et donc, ça demande la solidarité. En fait, c'est cela, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde suive, pour que tout le monde avance, et qu'il n'y ait pas tellement de distance entre le premier de cordée et puis le dernier, que finalement le dernier, eh bien, n'en pouvant plus, se sente abandonné et puis reste au bord du chemin. Le regard sur la personne fragile, c'est précisément cela, c'est que nous regardons les plus pauvres et les plus fragiles, nous prenons en compte cette fragilité et nous nous intéressons à tous dans la société, y compris l'enfant à naître, y compris la personne en fin de vie, y compris la personne handicapée. C'est une très grande responsabilité que nous avons de dire, en fait, nous formons une communauté avec tous ceux qui en font partie, y compris ceux qui sont les plus fragiles.
Donc vous étendez la question de la solidarité à l'ensemble de ces sujets qui ont traversé les débats de société ces derniers temps.
Exactement. Beaucoup de débats de société nous parlent de cela. Et donc il y a des enjeux qui sont cruciaux. Parce que est-ce que on peut éliminer un enfant parce que on ne sait pas très bien comment l'accueillir? Est-ce qu'on peut abréger la vie d'une personne en fin de vie parce que on pense qu'elle va souffrir et que ça nous est insupportable à nous et qu'on ne sait pas comment elle va vivre cela? À côté de ça, vous voyez, il y a des choses extraordinaires qui existent pour accueillir les enfants qui ont un handicap, pour accueillir les enfants qui sont inattendus par leurs parents, pour accompagner les personnes dans leur fin de vie en respectant la vie qui est sacrée jusqu'à la mort naturelle. Donc on voit qu'il y a beaucoup de très belles expériences, beaucoup de très belles réalités qui existent et qui nous aident à comprendre comment, au fond, nous devons prendre soin des personnes les plus pauvres. Ça, c'est un devoir de notre... Et puis c'est la dignité et l'honneur de notre communauté, la communauté nationale, la communauté communale, la communauté familiale. C'est l'honneur qu'elle s'occupe de tous ceux qui vont moins bien que les autres, de tous ceux qui ont du mal à avancer, de tous ceux qui sont porteurs de handicap, de tous ceux qui sont malades. Je crois que l'homme est suffisamment généreux, nous sommes suffisamment généreux pour inventer des solutions. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que nous pouvons inventer des solutions pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin et que ne pas laisser non plus la préoccupation des personnes les plus fragiles à leur entourage immédiat. Parce que parfois, l'entourage immédiat ne peut pas. On ne peut pas forcément accueillir un enfant parce que ça, on n'y arrive pas, on n'en a pas les moyens. Mais comment la communauté prend cela en compte et comment est-ce qu'ensemble, nous disons, on va s'occuper de tous. Et vous voyez, je dis ça parce que c'est d'abord le regard de Jésus qui nous éclaire là-dessus et qui nous pousse. Le regard de Jésus sur les plus pauvres, c'est ça qui nous motive. Et c'est là où je pense que des chrétiens ont quelque chose à donner à la vie sociale. C'est parce qu'ils ont le regard de Jésus, ils ont le regard de l'Évangile et ils peuvent comprendre ces belles choses, ce qu'on dit depuis le début, c'est nous sommes faits pour la vie sociale, c'est-à-dire pour la vie en communion avec les autres. Nous sommes faits pour nous occuper des plus pauvres. Alors, et ça, c'est l'Évangile qui nous habite et qui nous fait rappeler cela à tous nos concitoyens.
Ce que vous venez de dire là, vous l'avez écrit dans ces 6 catéchèses sur la politique. Donc vous voyez, la politique nous mène loin dans la réflexion.
Oui.
On peut se dire à la semaine prochaine, Monseigneur Brouvet.
À la semaine prochaine.
Et si vous le voulez bien, nous parlerons de l'exercice du pouvoir, parce que vous abordez aussi cette question dans vos catéchèses, 6 catéchèses sur la politique, que vous venez de faire paraître et qui sont disponibles notamment par commande sur le site internet du diocèse de Tarbes-Lourdes. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques.